On parle beaucoup du groupe des pays émergents, dit BRICS. BRICS étant évidemment un acronyme qui signifie Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Alors, nous sortons là maintenant d'une crise économique qui a quand même duré 6 ou 7 ans minimum. Et alors, maintenant qu'on a un petit peu de recul sur cette crise, on se rend compte que les pays qui s'en sont le mieux sortis pendant ces quelques années difficiles, eh bien, ce sont justement les BRICS. Pourquoi ? Mais prenez toutes les économies mondiales et répartissez-les en fonction de leur poids, de leur force. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'à un extrême du spectre, vous avez les pays industrialisés qui ont été très durement touchés par la crise. Je parle, par exemple, du gouvernement américain. Je parle des gouvernements de l'Union européenne qui ont dû injecter des milliards de dollars ou d'euros pour sauver leur secteur bancaire, leur secteur automobile, pour dynamiser l'emploi, etc. Et donc, évidemment, ça a fait exploser leurs finances publiques, leur dette publique, pardon. Ça, c'est un extrême du spectre. Prenez les économies à l'autre extrême du spectre, donc les pays en développement. Ces pays-là ont été encore plus durement touchés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà plus fragiles à la base et parce qu'ils ont subi, avec un petit temps de retard, l'onde de choc qui est provenue des pays riches. Mais alors, juste au milieu, vous avez la zone BRICS qui est arrivée à tirer son épingle du jeu et qui a continué de produire pour le reste de la planète. Alors, les BRICS sont mieux placés que les pays industrialisés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une main-d'œuvre meilleur marché. Et là, je pense évidemment particulièrement à la Chine et à l'Inde. Mais les BRICS sont également mieux placés que les pays en développement parce que, à la différence des pays en développement, ils disposent de technologies. Et ces technologies ne proviennent pas seulement des pays industrialisés. Alors, par le passé, si. Par le passé, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, quand ils étaient encore des pays en développement, eh bien, ils dépendaient de ce qu'on appelle les transferts technologiques provenant des pays riches. Un transfert technologique, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement, quand une technologie devient obsolète dans un pays industrialisé, eh bien, on la vend aux pays en développement pour une modique somme, simplement parce que nous, nous sommes dotés d'une technologie plus compétitive et c'est ça qui nous permet de garder un certain avantage sur le reste du monde. Et une des forces de ce groupe de pays, des BRICS, justement, c'est que contrairement à ce qu'ils faisaient il y a peut-être 40 ou 50 ans, aujourd'hui, ils n'attendent plus passivement ce transfert de technologie. Ils ne sont plus dépendants de la bonne volonté des pays industrialisés. Ces pays, maintenant, ils innovent. Et l'exemple dont je voudrais vous parler aujourd'hui plus particulièrement, c'est celui de l'Inde. Les ingénieurs indiens sont connus depuis de nombreuses années pour leurs compétences. Et je dirais même qu'ils ont un domaine de spécialité, à savoir concevoir des techniques de production moins coûteuses. Et le but, évidemment, est de rendre l'Inde très intéressante comme lieu de production pour les entreprises occidentales. D'accord ? Donc, dans ce modèle économique, vous avez des entreprises européennes, par exemple, qui vont confier des contrats de manufacture à des entreprises indiennes, puisque l'Inde va faire ça moins cher. Bon, j'aurais pu prendre l'exemple de la Chine, puisqu'en Chine, c'est exactement la même chose. Et dans ce contexte-là, tout le monde y gagne. L'entreprise européenne qui va obtenir des marchandises à bas prix, mais aussi l'usine indienne qui aura obtenu un contrat et qui aura donc généré des recettes. Et donc, si vous voulez, il est naturel que l'Inde se soit concentrée sur ses clients internationaux, puisque c'est là qu'est l'argent, d'accord ? C'est là qu'il y a les commandes financièrement intéressantes. Et donc, par le passé, c'était ça leur priorité, c'était cette clientèle-là. Jamais, par le passé, l'Inde ne s'est intéressée à sa propre population nationale, parce que c'est une population qui est extrêmement pauvre. Les ingénieurs et les industriels indiens, jusqu'ici, ne voyaient pas bien l'intérêt de travailler pour une population qui n'avait pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Et puis, la mentalité a quand même un petit peu commencé à changer. Et tant les ingénieurs que les industriels indiens ont compris qu'ils avaient eu tort de bouder cette clientèle, ce marché, qui représente quand même 1,1 milliard de consommateurs. Alors, d'accord, la majorité de la population indienne est très pauvre, c'est vrai. Mais ce que les entreprises perdent en marge bénéficiaire, elles le récupèrent en volume de vente. Et ça, les ingénieurs l'ont bien compris en Inde. Et donc, on est en train d'assister à l'apparition de toute une série de nouveaux produits, des produits qui sont destinés à une population défavorisée et qui voudraient vivre de manière un petit peu plus confortable au quotidien, tout simplement. Et donc, ces nouveaux produits ont pour but véritablement de cibler le barreau inférieur de l'échelle économique en s'appuyant vraiment sur une R&D tout à fait particulière. Alors, j'insiste vraiment sur ce point. Donc, les produits dont je vous parle ici ne sont pas simplement des versions, des copies bon marché de ce que l'on fait pour nous. D'accord ? Ce sont de vraies innovations. Et pour vous en convaincre, je vais prendre un exemple. Prendre l'exemple d'un réfrigérateur qui a été conçu par une entreprise indienne pour la population pauvre. Bon, je dis réfrigérateur, c'est un petit peu abusif comme terme, parce que si je vous dis à vous réfrigérateur, vous imaginez un objet blanc d'à peu près 2 mètres sur 60-70 cm. Avec une partie frigo et une partie congélateur. Alors qu'ici, non, on parle de quelque chose qui fait 45 cm sur 60. D'accord ? Donc ça ressemble beaucoup plus à une glacière, le genre de choses que vous allez emporter pour aller en pique-nique. Ça ressemble davantage à ça qu'à un vrai réfrigérateur dans le sens occidental du terme. Alors, bon. Appelons-les malgré tout réfrigérateurs, ils sont petits, pourquoi ? Parce que les pauvres vivent dans de petites maisons et aussi parce qu'ils achètent leur nourriture en petites quantités. Donc ça ne sert à rien d'avoir une grande armoire qui serait complètement vide. Par contre, ces réfrigérateurs sont munis de poignées pour que les travailleurs migrants, qui sont très nombreux en Inde, puissent facilement transporter leur nourriture avec eux. Alors, à la différence des réfrigérateurs classiques que nous connaissons, il n'y a pas dans ce réfrigérateur indien de compresseur. Alors le compresseur, moi je ne connais pas bien la technique du tout, mais simplement le compresseur, c'est la pièce qui est la plus coûteuse et la plus fragile d'un réfrigérateur classique. Alors, comment est-ce que ce réfrigérateur indien garde le froid ? Eh bien, à l'aide d'une puce électronique. Donc, un petit peu la même puce que celle qu'on trouve dans les ordinateurs pour refroidir le processeur. Donc, voilà, je vous disais que ce genre de produit n'était pas simplement une version bon marché de ce que nous connaissons, c'est quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, ce réfrigérateur n'est composé que de 20 pièces différentes. Alors que dans un réfrigérateur occidental, il y en a environ 200. Mais il y a quand même un critère sur lequel les ingénieurs indiens n'ont pas fait de compromis, à savoir l'isolation. L'isolation de cet appareil est vraiment haut de gamme. Alors, quand on sait qu'avant l'apparition de ce produit, moins de 20% des foyers indiens disposaient des réfrigérateurs. Et quand on sait que ce frigo est vendu pour seulement 47 €, imaginez le volume de vente que ça va générer, imaginez le nombre de personnes en Inde qu'un tel produit va intéresser. Et en plus, ils présentent un autre avantage que je ne vous ai pas encore expliqué, c'est qu'ils fonctionnent à la fois sur secteur et sur batterie mobile. Encore une fois, très utile pour les travailleurs migrants. Je prends un deuxième exemple de produit véritablement innovant. C'est un système, un petit système de purification de l'eau pour rendre potable de l'eau qui ne l'était pas. Donc vraiment un système qui permet d'assainir l'eau non potable. Alors cet appareil, parce qu'il est tout petit, il est portable, il est aussi très convivial et il va permettre d'augmenter fortement le degré d'hygiène dans lequel vivent les familles les plus pauvres en Inde. Et donc, ça va faire une énorme différence en termes de santé publique. Alors, je vous ai dit donc qu'il y avait un changement de mentalité dans les entreprises indiennes et chez les ingénieurs. La bonne question est pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui a suscité ce tournant ? Eh bien, en fait, c'est la demande extrêmement forte en téléphone portable bon marché qui a permis de révéler l'importance de ce marché de pauvres. En effet, il y a quelques années, une société indienne a produit des téléphones à 13 euros seulement, et ça a permis aux opérateurs mobiles, comme Vodafone ou autres encore, de recruter 5 millions de nouveaux clients par mois pendant plusieurs années. C'est absolument phénoménal, c'est une vraie explosion. Et là, grâce à ce boom, les entreprises indiennes ont compris qu'elles avaient eu tort de négliger à ce point les plus démunis. Alors, le seul problème dans un pays comme l'Inde, eh bien, évidemment, c'est la distribution des produits. Il est beaucoup trop cher de créer un réseau de magasins un petit peu partout. Donc, il a fallu, encore une fois, il a fallu innover, il a fallu s'adapter à la clientèle. Et la solution qui a été trouvée est de passer par un réseau de micro-entreprises. Plus concrètement, des petites coopératives, généralement tenues par des femmes. Alors ces femmes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont de village en village avec un échantillon du produit, elles en font la démonstration, elles prennent les commandes et elles reviennent un mois plus tard avec le nombre de pièces qui étaient commandées. Donc c'est un petit peu ce que ma grand-mère a fait avec les tupperwares ou d'autres choses du genre. Alors, c'est un concept qui, en Inde, est assez nouveau, mais qui, très clairement, est appelé à se développer. Et il sera intéressant de suivre cette évolution. Et je vais même faire un pari. Je pense que ce genre de concept va très bientôt s'exporter ailleurs. Je pense particulièrement à d'autres zones de l'Asie, et je pense surtout à l'Afrique. Parce que bientôt, bien, l'Inde sera plus riche, elle sera entrée véritablement dans la catégorie des pays industrialisés et probablement qu'un grand nombre de travailleurs indiens pourront s'offrir un réfrigérateur classique. S'ils peuvent le faire, je crois qu'ils le feront. Mais l'Afrique, elle, a toujours un temps de retard sur l'Asie, sur la Chine ou encore sur le Brésil. Donc il est probable qu'on voit là se développer des produits comme ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je parie, là aussi, que les entreprises qui vont innover en Afrique, les entreprises qui vont vendre ces petits réfrigérateurs, qui vont vendre ces filtres pour assainir l'eau, eh bien je vous parie que ce seront encore une fois des entreprises indiennes ou chinoises. Je vous remercie.